Le débat public, obligation légale pour tout investissement supérieur à 300 millions d'euros et à plus de 14 km de long, est ouvert du 28 avril au 10 septembre 2010 au sujet du projet de parc éolien en mer des deux côtes dans la Seine-Maritime. La Compagnie du Vent, groupe GDF Suez, en est le maître d'œuvre. L'occasion pour l'Association des journalistes pour la nature et l'écologie d'ouvrir lui-même le débat sans cacher sa position pragmatique en faveur de l'énergie éolienne.
Pourquoi un petit déjeuner consacré à l'éolien par les JNE ?
D'abord, c'est une question qui nous préoccupe depuis des années.
Claude-Marie Vadreau, directeur général des journalistes pour la nature et l'écologie.
Cette question de l'énergie éolienne comme devant faire partie intégrante des sources d'énergie en France. On ne va pas faire du tout éolien comme on a fait du tout nucléaire, mais ça doit participer. Ensuite, il y a l'actualité de ce premier projet offshore en France, qui est débattu en ce moment en Seine-Maritime et dans la Somme.
La Compagnie du Vent a un projet éolien offshore au large des côtes picardes et des Hautes-Normandies.
Jean-Michel Germa, président de la Compagnie du Vent.
Le projet central, le projet le plus équilibré, celui que la Compagnie du Vent considère aujourd'hui comme le plus abouti et le plus probable, c'est un projet qui est situé à 14 km des côtes et qui est un projet de 700 MW de puissance qui représente environ la consommation électrique d'une ville de 900 000 habitants, c'est-à-dire grosso modo deux fois la ville de Rouen ou la moitié de la Picardie.
Puis il y a le Grenelle de l'environnement où on est en train d'essayer de couper les ailes à l'éolien. Donc ça c'est trois bonnes raisons pour nous d'essayer d'avoir des précisions, c'est-à-dire de convoquer en quelque sorte les promoteurs du projet et aussi, ce qui est exceptionnel, d'avoir le président de la commission du débat public qui est venu expliquer comment il allait procéder pendant les 4 mois du débat public qui a commencé il y a quelques jours.
Le débat public, c'est une très bonne chose. C'est une manière, lorsqu'on a un investissement important, une infrastructure, que ce soit une ligne de chemin de fer, une route, une centrale nucléaire, une centrale éolienne, puisque c'est le cas de notre projet aujourd'hui, de pouvoir le présenter à la population, aux riverains, à l'ensemble des parties prenantes, avant que ce projet ne se construise, pour que les gens ne le découvrent pas. C'est un droit qui protège les intérêts de la population locale, des gens qui habitent dans un pays, pour pas que n'importe qui vienne y faire n'importe quoi. Donc je ne peux que adhérer à l'idée du débat public républicain et démocratique.
Votre avis sur l'offshore éolien, justement ?
Mon avis sur l'offshore éolien et sur l'éolien tout court, c'est que il doit, comme tout autre type d'énergie, solaire, géothermie, etc., participer à la diversification de la production énergétique en France.
L'éolien offshore a son intérêt multiple.
Jean-Mathieu Kolb, directeur des activités offshore de la Compagnie du Vent.
À la base, ça reste quand même l'énergie du vent, c'est-à-dire une énergie propre, naturelle, inépuisable. Personne ne pourra nous mettre sous embargo de notre vent, qui est quand même à nous et qui est là, donc autant l'utiliser. Ensuite, justement, il est plus fort, plus régulier, plus stable en mer, c'est-à-dire qu'on a des sites qui produisent plus qu'à terre, c'est-à-dire qu'un projet dans les terres, à quelques kilomètres de la côte, en mer, on va produire deux fois plus. Le vent est plus fort, plus régulier, plus stable. Aussi, on peut mettre de plus grandes puissances. On n'a pas les mêmes contraintes d'habitat, de relief, etc., qu'on retrouve à terre. A priori, l'impact environnemental est moindre. Quand je dis bien a priori, parce qu'il y a aussi des animaux, il y a aussi de la faune, il y a aussi des gens qui travaillent en mer. Il faut le prendre en compte. Mais par exemple, l'aspect visuel, c'est vrai que à 14 km des côtes, projet large qu'on privilégie aujourd'hui, une éolienne, c'est l'équivalent d'une éolienne miniature d'un centimètre qu'on regarderait à 1 mètre de l'œil. C'est pas grand chose.
Est-ce qu'à votre sens, l'éolien est devenu aujourd'hui, en termes ne serait-ce que d'autonomie énergétique, une énergie qui n'est plus alternative mais principale ?
L'énergie éolienne n'est plus aujourd'hui, en Europe en particulier dans le monde, une énergie alternative, mais ce qu'on appelle une énergie mainstream. C'est celle qui a la plus forte croissance pour produire de l'électricité. Ça provient de ses qualités intrinsèques. C'est aujourd'hui l'énergie tout simplement la plus compétitive pour produire de l'énergie électrique, mais c'est aussi, et vous le savez, l'énergie qui est parmi les énergies renouvelables, celle qui crée le plus d'emplois, qui est la plus mature industriellement. Et c'est aussi, on le sait, c'est une énergie renouvelable, propre et donc sans déchets.
On nous dit que, bon, c'est pas beau les éoliennes, mais moi je réponds à ce moment-là, est-ce que les pylônes à haute tension sont beaux? Est-ce que les tours des centrales nucléaires sont belles? Est-ce que les magasins But ou Auchan dans les banlieues sont beaux? Donc on ne peut plus se poser ce genre de questions. Et puis, si vous me posez la question à moi personnellement, je trouve que c'est beau une éolienne.
Aujourd'hui, ce qui arrive à l'énergie éolienne arrivera vraisemblablement vraisemblablement à l'énergie photovoltaïque, qui est encore dans une phase de moins grande maturité et qui donc est une énergie qui est un peu plus coûteuse, qui ne peut pas se développer aussi rapidement. Mais les politiques qui sont mises en œuvre et les diminutions de coûts par effet d'échelle industrielle vont permettre à cette énergie de remplacer, quand on aura déjà développé l'énergie éolienne de telle sorte qu'on ne puisse plus la développer, bien, l'énergie photovoltaïque prendra sa place et vraisemblablement avec beaucoup de succès.
Le Grenelle de l'environnement est en train de se tromper à propos des éoliennes.
Oh, il est en train de se tromper à propos de beaucoup de choses. Il se trompe à propos des éoliennes, c'est-à-dire qu'il y a une régression par rapport à ce qui s'est passé il y a maintenant 2 ans et demi. Il se trompe à propos des pesticides, il se trompe à propos de la taxe carbone qui a disparu, de l'éco-taxe sur les poids lourds, etc., etc. Bon, on est dans une phase de régression sarkozienne des problèmes d'environnement et c'est visible dans les discussions au Parlement en ce moment.
Comment se positionne la France en termes d'énergie éolienne par rapport à l'Europe?
Moi, je vais plutôt parler de mon domaine, de l'énergie éolienne en mer. J'avais vu le titre d'un de vos collègues qui titrait récemment « La Grande-Bretagne avance, les États-Unis se lancent et la France hésite ». C'est-à-dire qu'on voit un mouvement général en Europe et dans le monde, où on se lance dans l'éolien offshore, avec des programmes de développement conséquents, avec aussi des travaux pour emmener tout le savoir-faire, toutes les compétences qu'on a dans ces pays, dans cette nouvelle grande aventure. L'éolien offshore en Europe, c'est 40 000 emplois déjà aujourd'hui, ça sera 150 000 dans 10 ans, donc c'est des gisements conséquents, et pour l'instant, c'est vrai que nous, on est dans une phase plutôt d'hésitation par rapport à ce qui se passe chez nos voisins étrangers.
C'est une énergie qui n'est plus alternative, aujourd'hui elle devrait devenir une énergie principale, à votre avis?
Pour certains pays, peut-être, pour certaines régions, mais comme je vous le disais tout à l'heure, on ne peut pas faire du tout éolien non plus. Bon, mais c'est vrai que les Chinois développent énormément l'énergie éolienne, tout comme les Danois, tout comme les Allemands, tout comme les Espagnols. J'étais il n'y a pas longtemps en reportage en Navarre. En hiver, la production d'électricité grâce au vent, ça représente 39% de leur consommation. C'est-à-dire que c'est devenu non plus une énergie marginale, mais une énergie qui va compter dans le total énergétique de chaque pays au moment où on sait bien que le pétrole, soit il se répand dans la mer, soit il y en a de moins en moins.
Quel est l'argument le plus déroutant que vous entendez contre l'éolien?
Le plus déroutant, en soi, ce qui me gêne le plus que des arguments ou autres, on est d'ailleurs très content de pouvoir y répondre dans un cadre un peu officialisé, qu'est le débat public, c'est surtout qu'on a des opposants en face de nous qui se disent environnementalistes, qui pour autant n'ont jamais défendu le moins de projets environnementaux et qui surtout n'ont aucune alternative à proposer. À mon sens, c'est ce qui me gêne le plus à titre personnel.
Je voudrais dire que l'énergie éolienne fait très bon ménage avec la pêche. Au Danemark, vous avez beaucoup de pêcheurs qui vivent et qui pêchent pas loin ou à côté des éoliennes ou qui vivent des éoliennes, tout simplement. Donc j'attire l'attention des pêcheurs français pour leur dire « Bon, votre vie n'est pas finie, c'est pas parce qu'on a un parc éolien au large du Tréport » que la pêche ne sera pas possible, que l'activité économique ne sera pas possible, et que, au contraire, c'est une ouverture très possible. L'énergie éolienne ne fait pas fuir le poisson, bien au contraire.
D'où vient la sursensibilité par rapport aux éoliennes dans le paysage, alors que peut-être d'autres choses plus graves vont moins bouger?
Nous sommes dans un vieux pays, c'est-à-dire que la France a toujours été attachée à la nature des corps. C'est une tradition du 19e siècle et même du 20e siècle. La première loi de protection en France, c'était la loi sur la préservation des sites naturels, où on ne parlait pas de l'écologie du tout. Et donc on a une génération de Français qui s'agrippent à un pays qui n'existe plus, à un décor qui n'existe plus, qui a été transformé par l'homme, avec des préoccupations égoïstes. Est-ce que ma maison de campagne ne va pas perdre la valeur s'il y a une éolienne pas loin? Est-ce que mon château, est-ce que mon manoir ne vont pas en perdre de leur valeur? Il y a donc un vieux pays et une minorité de la population qui proteste contre les éoliennes par égoïsme pur et simple.
Si c'est pas vous, ça risque d'être quelqu'un d'autre, en l'occurrence, sur ce projet?
Peut-être. Nous, on n'a pas peur de la compétition, ça fait partie de mon métier. Encore une fois, on est là pour entreprendre, concevoir des projets, prendre des risques. Ça en fait partie intégrante. Ce qu'on a essayé de faire, c'est déjà de faire le plus d'études possibles, le plus d'expertise, concevoir le projet le mieux possible. Et maintenant, je dirais que on est dans une phase de débat public, on parle souvent de concertation. Je dirais que là, maintenant, nous, on la met en pratique, quoi.
Le débat public, c'est à la fois une bonne et une mauvaise chose, ou c'est entièrement une bonne chose? Parce que si on ouvre le débat public à des gens qui ne savent pas ou ne veulent pas savoir, c'est un peu embêtant.
Oui, mais le débat public est nécessaire. C'est une fonction de la démocratie, tout comme les enquêtes publiques qui suivent. C'est un moment où, d'ailleurs, la loi qui organise les enquêtes publiques, ça s'appelle la loi sur la démocratisation de l'enquête publique. Elle date de 1983 et c'est une loi qui fait appel aux citoyens pour lui demander son avis. Donc le débat public, quels qu'en soient les aléas, les dangers, les explosions, parce que là, pendant 4 mois, du côté de la Seine-Maritime et de la Somme, ça va fuser tout le pas. Eh ben non, c'est une bonne chose. Il faut parler.